Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être avec nous, content de vous retrouver sur Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain. Et nous allons parler musique avec une voisine qui était déjà venue chez nous, on en a déjà parlé. Il s'agit de Charlotte Coulot, qui est donc juste de l'autre côté des coteaux et qui va nous parler de son nouvel album qui vient de sortir et qui sera dans tous les bacs dès le mois de décembre prochain. Charlotte, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
Ça fait plaisir de t'avoir en vrai, parce qu'on t'a eu pour l'instant sur l'album avec un morceau qui était sorti avec la pierre au cou et qu'on a passé ici sur un coup de cœur, voici un an et demi maintenant, qui a été fait un peu après le confinement, c'est ça?
Oui, tout à fait. Je suis ravie d'être à l'antenne en direct avec vous.
Si on est avec toi aujourd'hui, c'est parce que tu as un album qui vient de sortir. Ce qui m'intéresserait de voir, on va parler un petit peu de ta carrière, et ce qui m'intéresserait surtout, c'est de voir un peu comment on fait un album avec une carrière qui débute comme ça, avec un coup de projecteur sur la Charlotte Coulot qui va devenir une vedette certainement, et comment ça s'est construit cet album. On commence par le début, qui est Charlotte Coulot ?
Une musicienne, chanteuse qui a fait ses preuves au conservatoire. Je suis passée par là pour le piano, pour le chant au conservatoire de Toulouse, au conservatoire royal de Bruxelles, puis dans un conservatoire italien. Et quand je suis revenue de ces pays européens, je suis arrivée ici dans la région toulousaine, ma région de cœur. Et puis j'ai rencontré des musiciens dans des registres très différents, le registre de la chanson française notamment. Et du coup, j'ai commencé à jouer beaucoup avec ces musiciens-là sur scène. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça m'a donné envie d'écrire mes propres chansons.
Parce qu'à l'époque, tu faisais quoi? Des reprises? Tu chantais les chansons des autres? Comment ça se passait?
Ben, comme je viens du conservatoire, en fait, principalement, on interprète les musiques anciennes. Donc, on se fait le porte-parole d'un compositeur comme Mozart, comme Bach, comme Beethoven.
C'est vrai, parce que je te coupe deux secondes, parce que tu es soprane.
Oui, je suis soprane.
Donc tu es soprane, donc tu as aussi un répertoire classique, dans la truite de Schubert par exemple, des choses comme ça.
Oui, j'aime beaucoup le chant lyrique et je fais pas mal de récitals dans la région où je me fais accompagner par des pianistes sur des répertoires de la musique baroque à la musique moderne. Donc j'adore ça, c'est vraiment mes fondements, c'est ma base pour pouvoir chanter et pour pouvoir chanter notamment d'autres répertoires comme la chanson française ou comme le jazz.
Maintenant, en plus du lyrique, tu te lances dans la variété, la pop musique, c'est ça?
Exactement, la chanson française qui, à mon avis, a un peu une couleur folk jazz quand même.
Presque soul, de moment donné.
Parfois, ouais. Même peut-être il y en a qui qualifieraient ça de un peu R&B. Mais chacun interprète comme il veut. Moi, ce que j'aime, c'est unir le piano avec la voix sur des thématiques qui me sont propres.
Tu viens de sortir un album qui est piano-voix, et avec tes accompagnements, tes arrangements musicaux, tu l'as écrit de A à Z, quoi.
Oui, sur cet album, il y a 10 chansons. Il y en a simplement 2 qui ont été écrites en collaboration, donc une en collaboration avec Daran, qui a fait le mix et la direction artistique de l'album, et une autre chanson qui a été faite en collaboration avec Simon Fayol.
Alors, on va commencer par le début, on va écouter un petit extrait des morceaux de cet album qui va commencer par quelque chose plutôt de doux.
Allez.
D'accord? Quelque chose qui existait déjà sur YouTube, qu'on peut voir sur YouTube, mais surtout qui a été remixé, remodelé de façon beaucoup plus sonore, c'est ça?
Exactement.
On va prendre Dame Guiraud.
Allez, c'est parti.
Il y a fort longtemps, bien après Charlemagne, dans un joli village où passait une rivière, il y avait un puits orné de traits en lierre. Les champs ensoleillés verdissaient au printemps. Dame Guiraud aimait y passer bien du temps. Ah,
Si j'ai choisi cet extrait-là, c'est pour une raison très simple. C'est parce qu'en fait, ça fait presque la transition entre la musique médiévale et le temps moderne avec Dame Guiraud.
Oui, tout à fait. J'aime énormément la musique médiévale, en fait, je dois dire. Et je cherchais une manière de la rendre un petit peu plus actuelle au travers d'un sujet que j'aime beaucoup, le sujet de la période cathare, en fait. Et comme je suis tarnaise à la base, que je suis née à Lavaur, il y avait ce personnage historique de Dame Guiraud qui me semblait intéressant.
Comment te viennent tes sujets d'écriture? C'est un truc au passage comme ça, une idée qui t'a traversé? Tu mets longtemps à écrire tes textes?
Je mets pas très longtemps à écrire mes textes, ni même mes chansons. Enfin, ça dépend quelles chansons, en fait. Il y en a certaines, je me dis, tiens, ça serait bien que j'écrive quelque chose sur le voyage. On est en plein confinement, on est tous enfermés chez soi. J'aspire à partir loin, j'aspire à voyager. Donc, ça me semble une thématique intéressante à aborder. Et puis, notamment, la chanson Voyage, la dixième chanson de l'album, je l'ai écrite vraiment très, très rapidement. Après, en ce moment, je suis déjà en train de me projeter dans mon prochain album. J'ai commencé une chanson il y a 3 semaines et un petit peu tous les jours, j'essaie de l'améliorer, peut-être aussi parce que je suis un peu plus exigeante.
On reviendra sur l'exigence qui avance au fur et à mesure du temps, plus on avance dans ses écritures et dans ses compositions. Mais tu commences par écrire quelque chose, c'est une idée, donc quelques lignes, un texte entier, quelques notes de musique qui font que ça te donne une idée pour construire après quelque chose.
Alors en général, je commence par la musique. C'est-à-dire que je me mets au piano, j'essaie d'avoir une succession d'accords, une harmonie qui me plaît. Et en général, sur cette harmonie, il y a toujours une mélodie assez facilement qui vient dessus. Et puis, si j'avais une thématique qui me semblait intéressante, ben, les mots ils vont venir... Tout simplement parce que sur cette musique-là, la prosodie sera plus facile à imaginer. Je pars très rarement du texte, en fait.
Tu retravailles ta matière par la suite, c'est ce que tu disais. Donc, tu fais un premier jet et oui. Ensuite, tu retravailles jusqu'à temps que tu obtiennes une matière qui te satisfasse.
Oui, voilà, une matière et puis aussi une structure. Ça, c'est un petit peu moins évident, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte quand on écoute des chansons à la radio, mais il y a quand même... une vraie structure, il y a quelque chose de construit, d'élaboré. Et moi, j'essaie de faire attention à ça pour pas que la musique soit redondante, pour pas que ce soit toujours la même chose, pour créer de la variété. Parce qu'un piano-voix, c'est quand même assez minimaliste. Et si on fait 10 chansons et que toutes elles se ressemblent, je pense que l'auditeur peut vite s'ennuyer, quoi.
Premièrement, mais aussi, il y a les contraintes qui sont des contraintes, je dirais, des contraintes commerciales. Parce que maintenant, aujourd'hui, en particulier sur certaines plateformes, on impose... des structures musicales, comme par exemple, il faut que le refrain arrive pratiquement à la 30e seconde, il faut qu'il y ait un couplet, un refrain, un pont, et qu'on amène sur autre chose. Est-ce que tu te cales à ça, ou au contraire, toi, tu te laisses libre de toute contrainte?
Moi, je pense que je suis quand même assez libre de toute contrainte. Je savais pas, par exemple, tu m'apprends une chose par rapport au refrain qui doit arriver à la 30e seconde. Je pense pas que ce soit le cas dans mes chansons. Mais c'est vrai qu'il y a une esthétique globale, une esthétique générale. Les gens, ils s'attendent à une certaine chose. Si on est complètement en marge, après, c'est compliqué de toucher et d'émouvoir le public. Donc,
Oui, mais regarde bien, dans les années 70, par exemple, les 80, tu avais des morceaux où les gens se rebellaient un peu contre l'industrie musicale. Ils faisaient des morceaux qui faisaient 14-15 minutes. Oui. Aujourd'hui, on est quand même assez formaté sur des morceaux qui font entre 2,45 et 3,50 maximum, on va dire.
Ben oui, c'est vrai. Si après tu proposes tes chansons et qu'elles font 10 minutes aux radios, les radios n'en veulent pas, donc...
Pas chez nous.
Ouais, voilà, pas chez vous.
On va écouter un morceau, justement, on parlait tout à l'heure de Voyage.
Voyage en voile sur l'eau. Voyage en voile de velours, le vent.
C'était une musique qui avait été écrite lors du confinement pour s'évader. Donc.
Exactement.
Donc, tu as écrit le texte, tu as écrit ta musique. Et maintenant, pour faire un album, comment ça se passe? J'ai de la matière, j'ai plusieurs morceaux. 10-12, un album, c'est 10-12 morceaux en moyenne. Il faut que ça fasse à peu près 50-60 minutes. Comment tu arrives à mettre ça ensemble pour que ça ait un sens, pour qu'il y ait une progression, pour que ce soit complémentaire? Les choix sont difficiles?
Non, les choix sont pas si difficiles. Moi, en l'occurrence, il y a 10 chansons, comme c'est du piano-voix, que c'est quand même, je pense, ça requiert une écoute assez intense. Finalement, je pense pas qu'on arrive à 50 minutes sur cet album-là. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai pris une dizaine des chansons que j'avais déjà composées et puis je les ai assemblées. Évidemment, ça se fait pas complètement tout seul, la création d'un album, parce que moi, comme tu sais, j'ai demandé à Daran qui fasse la direction artistique de l'album. C'est quand on fait un album comme moi, piano-voix, je chante, je joue du piano, je compose des chansons, c'est quand même bien d'avoir un regard extérieur, en fait, qui nous guide un tout petit peu dans la création physique de cet album-là.
Pour les gens qui ne sont pas forcément au fait, qui est Daran ?
Daran, c'est un artiste qui a fait de très très belles chansons, qui a écrit quelques tubes notoires d'ailleurs dans les années 90, qui a collaboré avec Johnny Hallyday, Pascal Obispo, qui a écrit un album entier à Morane avec Florent Pagny et puis aussi d'autres artistes comme Renaud, qui travaille beaucoup en collaboration avec Francis Cabrel, notamment aux rencontres d'Astafor. Beaucoup de jeunes artistes de la scène française passent par là-bas, le rencontrent. Moi, je l'ai rencontré à cette occasion-là. J'ai trouvé que c'était un artiste absolument scotchant et du coup, ça m'a semblé naturel de faire cet album avec lui.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait?
Déjà, faire un album sur des chansons qu'on a dans nos bagages depuis 2 ans, c'est vraiment faire naître quelque chose, quoi. Il y en a qui disent c'est le bébé. On peut dire ça comme ça. Et puis, ça permet aussi de se dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je vais le restituer, je vais le donner aux gens, au public. Et puis après aussi, je vais pouvoir aussi passer à autre chose. Vraiment me concentrer sur d'autres créations, d'autres projets artistiques et puis faire évoluer mon art, en fait.
Qu'est-ce qu'il a apporté, ce monsieur Daran? Il a fait quoi? C'est-à-dire qu'il t'a aidé à écrire la musique? Non, c'est toi qui le fais, ça.
Non, sauf sur une chanson. Je disais tout à l'heure, du coup, il m'a aidé à écrire la musique d'une chanson. Pas le texte, parce que le texte, c'était moi qui l'avais fait pour le coup. Donc, lui, il est venu pour l'enregistrement des voix à At Home, on n'a qu'à dire à la maison. Il est venu avec son micro, son ordi. Ça a été fait vraiment dans un espace clos. Et c'est lui qui a pris la direction complète, technique et artistique. Donc, moi, je faisais mes prises de voix et lui, il me dirigeait en me disant « Tiens, ça sonne un petit peu trop comme ça ou pas assez comme ça. Est-ce que tu peux voir si tu peux donner plus de luminosité ou arrondir plus ta voix ?» Il m'a guidée, quoi, dans ce sens-là.
C'est là où on voit que l'expérience a de la valeur.
Ben oui, c'est sûr. J'aurais presque pu le faire moi-même, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir confier aux autres la direction qu'on veut prendre, parce que sinon, on peut vite tourner en rond, refaire sans cesse les mêmes choses. Ça permet d'aller plus vite, l'expérience des autres.
Donc voilà, t'as écrit tes chansons, tu t'es fait accompagner par un professionnel pour donner une unité à cet album. Et après, il se passe quoi? J'ai des chansons qui sont enregistrées sur un ordinateur, j'en fais quoi?
Alors, il y a le mix. C'est aussi ça qu'a pris en charge Daran, de faire le mix. Donc,
ça, c'est ce qu'on fait beaucoup en radio. C'est-à-dire qu'en fait, on prend les voix et on les rend douces, agréables.
Voilà, on les rend douces, on harmonise un petit peu avec le piano aussi. Donc là, c'est pas non plus un travail extraordinaire parce qu'il y a que 2 instruments. Il y a des fois où il y a tout un orchestre à mixer. C'est encore plus compliqué. Là, il y a que 2 instruments. Mais malgré tout, il faut que ça soit bien fait. Donc, c'est ce que Daran a fait et que d'ailleurs, je le remercie énormément. Mais après, une fois que le mix est fait, il y a le mastering. Donc là, le mastering, je suis allée chez un des plus grands spécialistes français qui est à Bordeaux, Globe Audio Mastering. Et on a passé une journée pour mettre tout au même niveau et puis surtout pour donner une ampleur au son bien plus importante que le seul mix a, en fait. Donc, ça hausse de niveau le son et ça lui donne beaucoup de rondeur.
On va écouter un extrait de « J'ai un soleil dans la tête ».
Allez, c'est parti.
J'ai des étoiles dans le cœur et puis le cœur qui s'emballe et mon âme se pavane et mon esprit
Quand tu crées un disque, en fait, tu as du soleil dans la tête.
Ben, moi, quand je crée quelque chose, et surtout quand je l'interprète, en fait, j'ai besoin d'avoir beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour l'interprétation. Après, pour l'écriture des chansons elles-mêmes, ça, c'est différent. Je dois être dans un état un petit peu différent pour la création de la musique.
Alors, tu as fait ce disque, on va continuer à avancer dessus, parce que pour l'instant, tu as écrit, tu as mixé, tu as fait les arrangements, mais à côté de ça, tu te produis.
Oui, je me produis sur ce concert solo piano-voix, un petit peu partout dans la région Occitanie. D'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, cet album sortira dans les bacs le 2 décembre, mais il y aura une avant-première, si on peut dire, à partir du 20 novembre. Je vais jouer à Gap avec un Steinway, c'est le plus beau piano dont on puisse rêver, c'est trop bien. Le 18 novembre, je jouerai aussi à Ville-sur-Ozon vers Carpentras. Le 26 novembre à la Grange de Mondel à Saint-Sulpice sur Tarn. Et puis après en décembre à la pause musicale, donc j'ai la chance d'avoir Joël Saurin, le contrebassiste de Zebda, qui m'a fait confiance pour venir sur une date comme ça, c'est super. Et le 13 aussi janvier à la MJC de Mazamet, dans le Tarn.
Bref, t'arrêtes pas quoi.
Ben, pour les concerts, ben, moi j'adore ça, hein, donc s'il y en a un tous les jours, ça me va quoi.
D'autant plus que les premières fois où je t'ai rencontré, tu faisais déjà des concerts dans l'Est pour des musiques plutôt classiques et t'arrêtes pas, Nord, Est, Sud-Ouest, partout.
Ouais, je vais un petit peu partout dans les départements d'Occitanie, là où on a envie que je joue, que ce soit pour du lyrique ou de la chanson, et bientôt même du jazz d'ailleurs.
On en était au fait que t'avais rassemblé, t'avais mixé tout ça. Maintenant, pour faire un album, il faut faire un disque. Aujourd'hui encore, on peut bien sûr les laisser sur les plateformes numériques, mais on doit aussi pouvoir les distribuer avec un distributeur à l'extérieur, Fnac, Amazon ou autre.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a à la fois la distribution numérique sur toutes les plateformes et aussi la distribution physique. Et donc, quand on a tout le matériel, donc on a le mastering, il faut pouvoir presser le disque si on a envie de faire une distribution physique et trouver un distributeur. Donc moi, en l'occurrence, j'ai pu trouver un distributeur, Inouï Distribution, qui va se charger de la distribution numérique et physique de l'album.
C'est-à-dire celui qui va faire le VRP pour l'album de Charlotte Coulot.
Voilà, c'est ça.
Qui finance tout ça?
Alors là, c'est un album qui est autofinancé. C'est-à-dire que c'est moi qui finance la quasi-totalité de cet album-là. Donc, comme tu disais tout à l'heure, une fois que le mastering est fait, il y a déjà beaucoup de coûts qui ont été engendrés par la création du mastering, entre l'enregistrement, le mix, la direction artistique aussi se paye le mastering. Après, donc, il y a le pressage du disque. Ça aussi, ça représente une somme assez importante. Et puis, la distribution, ça, c'est finalement le distributeur, il se paye par les ventes d'albums qui se font via la Fnac, par exemple, via Cultura, via Amazon.
Le distributeur, lui, il est chargé de placer ton disque chez des commerçants, on va les appeler comme ça, que ce soit des commerçants en ligne ou des commerçants physiques. Lui, il se prend sa marge et toi, tu as une petite cacahuète en retour.
C'est ça, c'est pour ça que je préfère revendre mon album à la fin de mes concerts, où là, je prends la totalité.
On va pouvoir trouver l'album à la fin des concerts.
Exactement.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
Et dès le 10 novembre, en fait.
Et il faut faire une jaquette, il y a un design, et comment t'as fait?
Oui, tout à fait, ouais. Donc ça aussi, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai de la chance d'avoir un compagnon qui a pu m'aider à faire ça. Sinon, j'aurais été absolument incapable de le faire. Ça demande d'avoir un web designer ou quelqu'un qui est un graphiste. Donc, une jaquette, c'est pas facile à faire. Faut trouver des photos, faut trouver une esthétique globale, faut pouvoir mettre les textes, les ranger sur les pages. Ouais, c'est un gros travail, ça.
Donc, il suffit pas de savoir chanter, en fait. Il suffit maintenant de savoir chanter et avoir en même temps une vision un petit peu de ce qu'on veut faire passer comme image de soi-même et puis de son album.
Voilà, une vision à 360 degrés.
Oula. Comment on donne la couleur de cet album? C'est-à-dire que tu as choisi des chansons, mais tu disais, grâce au mastering, on a pu harmoniser les volumes, mais aussi les tonalités, dans quel ordre on choisit les morceaux, par exemple?
Alors, l'ordre des morceaux, c'est moi qui les choisis. Ça a été très simple, en fait. Quand Daran m'a envoyé les mix, il me les a envoyés dans un certain ordre. Donc, moi, j'écoutais ces mix pour pouvoir lui faire des retours. D'ailleurs, le mix, ça a pris du temps parce que une fois qu'il envoie le premier, moi, je fais un retour. Et puis après, ça peut prendre un certain temps pour se mettre d'accord sur le mix définitif. Et lui, il m'a envoyé un mix avec un ordre. Et je me suis tellement habituée à avoir cet ordre-là que finalement, j'ai pas changé grand-chose par rapport au mix un peu aléatoire qu'il m'avait envoyé au départ.
Donc, ça veut dire que lui avait déjà une idée en tête ?
Je pense pas. Je pense qu'il me les a envoyés dans un ordre selon le temps qu'il avait pris à les travailler et puis l'ordre dans lequel il les avait travaillés lui-même, finalement.
Toi, quand tu as créé cet album, si on devait cumuler tout le temps de travail, ça représente combien de temps ?
Franchement... Je pense que ça représente des heures et des heures de travail, des journées, des semaines, voire plusieurs années, en fait, pour arriver à ça. Je pourrais pas dire avec précision combien d'heures ça représente.
Parce que ça, c'est le premier, en fait. Et ça, en faire un second, t'as déjà commencé, mais t'imagines autant de temps de travail pour en faire un second?
Ben, je pense que le musicien aujourd'hui, il a pas le choix. On est à fond, on est passionné. Et puis, c'est une énorme partie de notre vie, si ce n'est toute notre vie.
Toi, tu chantes essentiellement en français. On parlera après d'un titre un peu anglais, mais tu chantes essentiellement en français. C'est un choix de ta part, une volonté, politique, de chanter en français, de ne pas tomber dans l'anglophone?
Comme je disais, en fait, quand je suis revenue d'Italie, bon, moi, je parle italien parce que j'y ai vécu presque 4 ans, donc je peux aussi chanter en italien, en allemand, en anglais, tout ça. Mais quand je suis revenue d'Italie, je suis tombée un peu dans l'univers de la chanson française. Donc... il n'était pas question que je me mette à chanter anglais. Et puis, en fait, je trouvais ça assez plaisant de chanter en anglais. En français, pardon. Je trouve ça assez bien de chanter dans ma langue maternelle. Moi, j'aime bien chanter dans toutes les langues. Après, le français, ça s'adresse vraiment à un public particulier. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui aiment entendre leur langue maternelle, qui sont amoureux des textes. Donc, moi, j'avais envie de rentrer un petit peu dans cette communauté, en fait.
Et paradoxalement, t'es connue aux États-Unis.
Oui, justement, parce que dans l'album, il y a une chanson qui a été écrite en anglais. Celle-là, c'est vraiment la seule qui a été écrite il y a bien plus longtemps, c'est-à-dire qu'elle doit avoir au moins une dizaine d'années. Et puis, je l'avais un petit peu délaissée dans un coin, dans un cahier. Et puis, finalement, j'ai décidé de la ressortir. C'est une chanson qui s'appelle « In the River ». C'est une chanson qui parle de la nature, de mon amour des animaux, des végétaux, des paysages. Et elle a été un petit peu remarquée, notamment aux États-Unis, où elle a reçu le prix Clouzine de la meilleure chanson piano-voix.
Je rappelle qu'on est ici avec Charlotte Coulot qui sort son nouvel album bientôt, très prochainement dans tous les bacs en décembre et les salles de concert dans l'Occitanie et ailleurs parce que tu vas dans le sud-est aussi en novembre, qui est un album qui comporte 10 morceaux et qui a été mixé par le célèbre Daran, sur un album qui en fait fait un petit peu l'histoire de ta musique aujourd'hui. En fait, c'est une photo sur tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
Exactement. Et c'est pour ça que je suis heureuse que cet objet, que ce disque sorte enfin, parce que ça raconte une belle histoire de ma vie et aussi ça me permet de tourner une page pour peut-être m'orienter vers d'autres esthétiques.
Comment tu vois l'évolution justement de la chanson française aujourd'hui ?
Tu veux dire pour moi ou l'évolution en général ?
Les deux.
Alors l'évolution en général, je pense que ça s'oriente aussi beaucoup vers de la pop music. Pour ce qui me concerne, je pense que dorénavant, je vais aussi récupérer un tout petit peu mon héritage de musique classique et aussi ma grande musique de cœur qui est le jazz. Donc je pense que sur une prochaine production, il va y avoir un tout petit peu plus des influences qui vont se sentir, notamment sur les parties musicales.
Un Shaul Kulot jazz alors ?
Exactement.
Et avant de se quitter sur un dernier morceau, où est-ce qu'on peut te retrouver avec les dates de tes concerts, de tes productions, sur quel réseau ?
Je suis sur tous les réseaux sociaux, donc YouTube comme tu disais tout à l'heure, puis Twitter, Facebook, Instagram et sur toutes les plateformes d'écoute de musique en ligne.
TikTok aussi ?
TikTok aussi, ouais.
Je le savais.
Depuis pas longtemps.
Je le savais. Donc, et on cherche Shaul Kulot.
Exactement.
C-O-U-L-E-A-U.
C-O-U-L-E-A-U. Twitter, c'est @officielchat.
Charlotte, merci beaucoup d'être venue à Radio Galaxie. On va écouter donc le morceau spécialement que personne n'a encore entendu pour l'instant.
Voilà, exact.
Il s'appelle
Jérômine.
Il parle de quoi ?
D'une femme qui fait briller les yeux des enfants et des grands. Et c'est un morceau intemporel. C'est l'histoire d'une femme que tout le monde aime finalement.
Charlotte, merci beaucoup.
Merci.
Et puis, bon vent. Et surtout, il faut nous tenir au courant de ce qui va se passer par la suite. Hein.
Oui, à très bientôt.
On écoute donc Jérômine.
vers le fond.